compte, d'autant plus la notion du temps en psychiatrie, où elle est souvent déformée par les personnes.
D'accord, ok. Donc, je vais faire un petit résumé de tout ce que j'ai noté, de ce que nous nous sommes dit, et puis après, on fera un tour de table où chacun nous dira ce qu'il aimerait bien que nos auditeurs retiennent, finalement, de la question que l'on s'est posée, de l'échange que nous avons eu. La question, c'était: que peut apporter le travail social au monde dans lequel nous vivons? Et alors, j'ai pris des notes au fur et à mesure, et alors j'ai noté qu'il amenait de l'émancipation, du savoir et de l'information, qu'il amenait de la lutte contre l'injustice, qu'il amenait de la liberté, qu'il amenait de l'accueil, de la bienveillance, qu'il payait quelques factures, qu'il amenait de la dignité, de la confiance, et là j'entends qu'il amène du temps également, hein, qu'il amène chacun à vivre un petit peu, enfin qu'il l'invite, qu'il propose à chacun de respecter sa propre temporalité personnelle, hein, plutôt que le rythme haché, saccadé, bousculé dans lequel nous vivons. Avant de terminer cette antenne du social, eh bien, j'aurais juste voulu qu'on nous fassions un petit tour de table et que chacun nous dise ce qu'il aimerait que nos auditeurs retiennent de ce que peut apporter le travail social au monde dans lequel nous vivons. Isabelle.
Oui, bah pour moi, il aide à le travail social, il déculpabilise les personnes, il les aide aussi à lutter. Voilà, ouais, il déculpabilise, il aide à lutter. Et il indique aussi qu'on n'est pas tout seul. Voilà.
Merci Isabelle. Anne-Gaëlle.
Alors, ce que je souhaiterais surtout que les gens retiennent des travailleurs sociaux, c'est que nous sommes de sacrées boîtes à outils. Que tout le monde, pas que les plus défavorisés, hein, mais vraiment que toute personne qui se retrouve dans la difficulté, peut venir cogner à notre porte et venir se saisir. Voilà, nous ne sommes pas que des travailleurs pour placer des enfants, pas du tout. C'est-à-dire que il faut penser à nous et peut-être que c'est à nous aussi de parler plus, de communiquer plus sur notre fonction. Sans forcément, je pense que des fois, bien sûr, on a beaucoup de choses à revendiquer. La société n'est pas parfaite, etc. Ah bon? Mais notre métier gagne à ce qu'on communique plus sur réellement ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de choses.
Merci Anne-Gaëlle. Mélodie.
Alors pour moi, le travail social reste avant tout un appui pour les personnes que nous rencontrons, parce que pour moi c'est une rencontre avec l'autre, et chaque rencontre est unique, et pour moi le travail social reste vraiment essentiel, et voilà, nous sommes à l'écoute de toutes les personnes qui viennent frapper à notre porte, et mon souhait aussi, ça serait de développer plus cette notion d'aller vers, pour vraiment montrer à cette population qu'ils sont pas seuls. Et je rejoins donc ce qu'elle disait Isabelle, car beaucoup de personnes ont tendance vraiment à être démunies et à ne pas voir le bout, mais à se dire voilà que nous sommes là, même si nous n'avons pas une solution budgétaire ou autre à leur apporter, mais nous avons quand même cette disponibilité, cette écoute active pour leur dire voilà, ben vous n'êtes pas seul. Voilà.
Merci beaucoup Mélodie. Alice.
Eh bien, différentes choses, mais quand même, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a eu toute l'émission, ceux qui voudront la réécouteront avec plaisir ou la découvriront. Mais que avant tout, effectivement, nos professions de travailleurs sociaux sont effectivement des professions qui doivent être mieux connues. Moi, je dis souvent avec d'autres, mais que nous sommes des invisibles, qui travaillons avec des invisibles, et que nous participons effectivement, comme je disais, à favoriser un travail social émancipateur, et qui doit pouvoir être émancipateur, ce travail social, et que Une des clés de notre travail, c'est d'être des professionnels de l'écoute et de la rencontre à l'autre.
Merci beaucoup, Alice.
Et toi, Christophe ?
Eh bien, moi, ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent, je crois que ça tient en deux choses. D'une part, je crois que j'aimerais qu'ils retiennent que notre boulot, c'est pas du tout de faire du contrôle. Le boulot du travail social, et encore plus celui des assistants sociaux, c'est pas du tout de faire du contrôle social, de la vérification ni du placement d'enfant. Hein, que c'est pas du tout ça, même si c'est l'image sociale qui est un peu véhiculée et c'est la peur qui traîne, mais c'est pas du tout ça que notre mission, c'est d'aider les personnes que l'on rencontre, qu'on accompagne, qui viennent nous trouver à établir le meilleur équilibre possible entre leurs propres aspirations et les exigences de l'environnement qui les entoure. Hein. Ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'ils retiennent. Et puis, la deuxième chose qu'ils retiennent, c'est une chose dont on n'a absolument pas parlé. On s'est beaucoup consacré à l'accompagnement individuel, mais que le travail social, c'est aussi de l'action collective. Hein, et que ça, nous n'en avons pas du tout parlé. C'est un des grands blancs de notre émission.
Ah ben, la prochaine.
Absolument, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés. Et puis, eh ben, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On va dire ça comme ça. Hein. Profitez bien les uns des autres. Et on écoute Guy.
Alors, oui. Alors, pour vous dire que durant votre émission, hein, merci d'être venu déjà et puis d'avoir fait une si belle émission.
Avec plaisir.
Merci.
Et oui, Guy qui est à la technique.
Tout ça sur un CD. Un CD de Pascal Loquin qui a une émission sur Radio Libertaire. Une émission qui s'appelle Faites-nous des chansons. Voilà. C'est une émission chaque jeudi à partir de midi à 14h.
Très bien.
Voilà. Enfin, c'est pas toujours elle qui anime. Hein. Ils sont plusieurs à animer cette émission. Donc, son disque, elle a déjà fait plusieurs disques. Son disque sur lequel je vous ai passé des très belles chansons. Entendre le temps qui pousse, c'est le titre, le sous-titre enfin, du compact. Voilà. Donc, on a entendu Coule la vie, Ami, en d'autres temps, Le radeau des médusés et Des jours comme ça. Donc c'est un disque, vous pouvez l'acheter, je ne sais pas où, à Publico c'est sûr,
à Publico,
hein, au siège de Radio Libertaire.
145 rue Amelot, Publico.
145 rue Amelot, côté de République, voilà, très bien.
Parfait, c'est
Et puis ben, on vous retrouve troisième vendredi du mois, à l'année prochaine.
Merci beaucoup.
Tout simplement.
Il fait bon, le ciel est bleu, le vent chante dans les feuilles. Il fait beau, c'est formidable, c'est l'amour que l'on cueille. Le printemps fait le poirier, mais il ne faut pas s'y fier. J'entends la vie qui va, c'est étrange comme elle va fort. Il y a des jours comme ça où le printemps a des mains d'or. L'amour se fend la poire, il est parti quelque part. Le vent s'est trompé de chemin, il n'a plus le temps. Il n'est plus dans le bottin, alors le temps a pris un vent. L'amour est tombé dans les pommes, le printemps fait un petit somme. Le ciel est bleu, c'est formidable, les oiseaux chantent dans le ciel. L'amour marche sur le sable, le printemps donne du miel. La vie fait son chemin, seul ou avec quelqu'un. Le vent a fait son temps.
Quitte ma vie et mon divan. Tenez, voici, j'ai découvert, dissimulé sous l'évidence de votre Chanel ordinaire, de plus secrète fulgurance, il me faudra les retenir pour donner corps à l'éphémère, recomposer votre élixir pour en habiller mes chimères. Sans doute il y eut des rois pour vous fêter, enfant, en vous disant reçois et la myrrhe et l'encens. Les fées de la légende penchées sur le berceau ont fleuri de lavande vos yeux et votre peau. J'ai deviné tous vos effets. Ici l'empreinte du jasmin, par là la trace de l'œillet, et là le soupçon de benjoin. Je pourrais dire ton enfance, elle est dans l'essence des choses. Je sais le parfum des vacances dans les jardins couverts de roses. Une grand-mère aux confitures, un bon goûter dans la besace, piquante ronce douce mûre. L'enfance est un parfum tenace. Tout ce sucre c'est vous, tout ce sucre et ce miel. Le doux du roudoudou, l'amande au caramel, les filles à la vanille, les garçons au citron, l'été sous la charmille et l'hiver au marron. Je reprendrai bien volontiers des mignardises que tu recèles et retrouverai dans mon soulier ma mandarine de Noël. Voici qu'au milieu des bouquets de douces fleurs et de bonbons s'offre à mon nez soudain qui est une troublante exhalaison. C'est l'odeur animale de l'humaine condition, de la sueur et du sale et du mauvais coton. Et voici qu'ils affleurent les fluves du trépas, l'odeur d'un corps qui meurt entre ses derniers draps. Et sa cruelle taquinerie n'emporte votre amour ou le mien vers d'autres cieux ou d'autres lits. Je veux garder pour en mourir ce que vous avez oublié sur les décombres de nos désirs.
Snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mois. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je snore, c'est bad. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Radio Libertaire 89.4.
Notre voisin l'ancêtre était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche. Et quand le bruit courut que ses jours étaient comptés, on s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait apporté les guitares avec nous, car devant la musique, il tombait à genoux, excepté toutefois les marches militaires, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, émule de Django, disciple de Crolla. Toute la fine fleur des cordes était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime audition, en guise de viatique, une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les guitares sont restées à la porte cochère, et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantiques peu chers. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue, oh non, pas de chant liturgique pour qui avale sa chique, mais des guitares crénom de nom, mais des guitares crénom de nom. On avait apporté quelques litres aussi, car le bonhomme avait la fièvre de Bercy, et les soirs de Nouba, parole de tavernier, à rouler sous la table, il était le dernier. À rouler sous la table, il était le dernier. Saumur entre deux mers, Beaujolais, Marsala, toute la fine fleur de la vigne était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime libation, en guise de viatique, une ultime libation. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les litres sont restés à la porte cochère, et le coup de l'étrier de l'ancêtre déçu, ce fut un grand verre d'eau bénite peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, ne nous faites pas boire, oh non, de ces eaux minérales, bénites ou lustrales, mais du bon vin, crénom de nom, mais du bon vin, crénom de nom. On avait emmené les belles du quartier, car l'ancêtre courait la gueuse volontiers, de sa main toujours leste et digne cependant. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Depuis Manon Lescaut jusque à Dalila, toute la fine fleur du beau sexe était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime érection. En guise de viatique, une ultime érection. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les belles sont restées à la porte cochère. Et le dernier foufou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe de serpe chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas d'enfant de Marie, oh non. Remplacez-nous les nonnes par des belles mignonnes, et qui fume crénom de nom, et qui fume crénom de nom.
Thank you. soit d'ici ou de n'importe quel parage. Moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part et portent dans leur cœur une ville ou un village où ils pourraient trouver leur chemin dans le noir. Voilà pourquoi Jean de Bordeaux, François de Nantes, voilà pourquoi Laurent, le gars du Caligou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente, j'aime tant vous entendre parler de chez vous. Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays. Chaque 1er janvier, on dit, c'est la dernière année que je passe en Australie. Et le 1er janvier suivant, nous voit refaire même serment qui sombre à son tour dans l'oubli. Ce serait pourtant le moment de revoir nos plages, car les pays se ressemblent de plus en plus. Et dans 10 ans, nous trouverons dans nos villages des distributeurs de hot dogs au coin des rues. Le whisky paraît acide dans les bars d'Adélaïde lorsque l'on garde au palais le petit goût du Beaujolais. Et dans 20 ans, sans avoir revu nos falaises, citoyens d'Australie conscients de leurs devoirs, à nos enfants nous apprendrons la langue française, mais leur accent ne sera plus celui du terroir. Alors dis-moi, de nos 20 ans, François de Nantes, de nos 20 ans, Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente, nos 20 ans d'aujourd'hui, vous en souviendrez-vous? Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays.
Sono le 22:30.
Per l'Europol è che gli stati We'll be right back.
Radio Libertaire, bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Re-bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire en ce vendredi 15 décembre 2023. Bonsoir Serge.
Bonsoir Henrik.
Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Bonsoir Yves.
À tous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et bonsoir à toutes et à tous. Donc, de nouveau sur l'antenne. Quoi que vous étiez déjà en direct tout à l'heure, un nouvel épisode de cette fabuleuse émission qui est le Post Non-Radio Show, présenté par le non moins fabuleux moi-même. Merci, moi je m'aime.
Je vous propose d'applaudir.
Ouais, applaudissez. Bravo. Non, mais c'est une blague, évidemment.
Vous bah oui, évidemment, bah je blague aussi. Oui.
Évidemment, vous êtes en direct avec le serpent pervers de Radio Libertaire. Et on se retrouve de nouveau pour une nouvelle émission. Ah, que de redondance. Donc, bonsoir les amis.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On dort là.
Oui, là, oui.
On dort. Ouais.
Subitement, ça dort, mon dort. Alors, autant commencer déjà tout de suite par un tas d'annonces, puisque j'en ai plein à faire avant.
Oui, effectivement, que, oui.
Que vous commenciez à vous exprimer. Demain, samedi 16, c'est un peu tôt, c'est à 16h. Je serai certainement en train d'émerger péniblement. Mais à la librairie Publico, évidemment, il y aura déjà une projection débat d'un film de Jean-Baptiste Rivoire, attentat de Paris, enquête sur les commanditaires, et je suppose que ça sera sur les attentats du 15 novembre 2015, c'est ça si je ne me trompe. C'est bien ça.
Ou du 13 novembre.
13 novembre.
13 novembre.
C'était un vendredi 13.
C'était un vendredi et on était à la radio.
Oui, exact. Oui,
on était à la radio, si tu te souviens bien, nous étions à la radio.
Effectivement.
Ce soir-là. Puis ensuite, mercredi 20 décembre, 20h, Omerta de Raphaël Bruyas. C'est également une projection débat. Alors, j'ai pas. Qu'est-ce que c'est que le détail sur l'Omerta? Ah! Début du XXe siècle, dans un hôpital religieux, un groupe de jeunes internes fait une découverte anatomique qui pourrait bien changer l'ordre du monde dans leur projet révolutionnaire. Ah oui, c'est Voltairine de Clair, en pleine réflexion sur l'action directe. Mais j'ai d'autres mentions à faire, à vous communiquer. Alors déjà, il y a, je regarde, excusez-moi, il y a la Libre Pensée qui fête le solstice d'hiver ce dimanche 17 décembre avec notamment le groupe Les Pétroleuses et puis des conférences et des débats. C'est à partir de 13h, 13h30. Il y aura un marché de créatrices, une vente de livres et de buvettes, des conférences et des concerts. Dans l'après-midi, c'est l'histoire de la commune en musique, et ça sera 10 rue des Fossés, Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement, et c'est là où j'ai envie d'aller dimanche. Dit, je crois qu'il y a une conférence par un des camarades.
Ah oui, par Volito. Ah oui.
Exactement.
Oui.
Et exactement, c'est ça. C'est cette fameuse conférence dont il discutait les jours derniers. Et c'est donc dimanche. Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Oui. 10 rue des Fossés Saint-Jacques, Paris 5e, à partir de 13h30. Il y aura donc des concerts et des conférences autour de la commune. Et j'avais autre chose à signaler. Je cherche, je crois que c'est ça, c'était aussi la prochaine fête du livre noir et rouge qui aura lieu les samedis 27 et dimanche 28 décembre. Ah non, 2024.
Oui, alors...
Il s'est trompé, c'est pas 2024.
C'est pas 2024, ah oui.
C'est 2023, là.
Oui, c'est...
Il aurait annoncé... Ah, je viens de faire... Oui. C'est 2023.
Ben, c'est 2023, oui. Parce que si c'était trompé... Ben, moi, j'étais étonné déjà que ça soit si près de la fin de l'année, là. Alors, quand ils ont dit, oh, on s'est trompé, alors... mais non, ils peuvent pas se tromper, parce qu'ils en font beaucoup dans l'année, quand même, hein. Donc, si c'est pas non plus 2024, si c'est 2024 et qu'ils se sont trompés, à ce moment-là, c'est très tôt dans le mois de janvier, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, ils se sont trompés parce que c'est pas décembre. Je sais pas. Ouais.
Alors,
je suis resté un peu cloué là. Oui.
Donc, les dates sont assez Alors, c'est censé être le samedi 27 et dimanche 28.
Ouais.
C'est
ça, ouais, je crois. Oui.
Alors, par contre.
En 2023.
Non, ça ne correspond pas.
Ah oui, oui.
Puisque. Il n'y a pas de samedi 27 et dimanche 28 en 2024.
Ah, d'accord.
Non, il y a un samedi 23 et un dimanche 24, et un samedi 30 et un dimanche 31.
D'accord.
Donc ça ne correspond pas.
Oui.
Donc on ne sait pas. Bon, bah voilà, je viens de me rendre compte que c'est pas bon.
Il faudrait passer un coup de fil avant de.
Prochaine fête du livre de Noir et Rouge aura lieu les samedis 27 et dimanche 28 décembre 2024. Bon. Ok. Bah, ça correspond à rien. Ça correspond pas à des dimanches.
Non, faut peut-être aller voir sur Internet, quoi, quand même. Oui, oui.
Ok, ben.
Oui, parce que sur Internet, ils ont dû mettre à jour, donc faut voir. Oui.
Ok, ben, le temps qu'on mette à jour, on s'écoute un morceau, et puis comme ça.
D'accord.
Pendant que vous prendrez la parole tout à l'heure,
oui.
Je rectifierai le tir.
Obviamente, veramente, realmente, profondamente, francamente, con pazienza e felicità.
Fantasma, non fai paura, ti rendi triste.
Radio Libertaire, The Boston on Radio Show sur Radio Libertaire, bien sûr. Et je viens de vérifier sur le site de Noir et Rouge. J'ai rien trouvé. Et en décembre, le 27 et le 28, c'est le mercredi 27 et le jeudi 28.
Et 2024, c'est un vendredi et un samedi. Donc ça ne colle pas non plus.
Oui, c'est ouais. Ce que disait Henrik. Donc ça colle pas là. Oui,
ça colle pas, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben voilà, c'est une annonce dans une réalité parallèle. Voilà, une réalité parallèle quelque part dans le temps, dans une autre réalité. Peut-être qu'ils se manifesteront une autre fois. Donc... chers amis, qui veut commencer? Je pense que Yves a plein de choses à dire ce soir.
26 et 27 en octobre 2024. Il n'y a pas de samedi 26 et dimanche 27 avant octobre 2024.
Ah oui, donc ça repousse. Oui, oui.
Bon, je suis en train de chercher les possibilités. Hein. On va passer à 2025. Bon, j'arrête.
Mais il faudrait surtout que tu t'approches de ton micro.
Bah, Yves, il n'a pas grand-chose autour de lui, hein, je crois. Je ne sais pas, mais...
Non, toi, tu t'approches du micro, tu rapproches pas.
J'ai pas vu grand chose autour de.
Voilà, comme ça.
Ça, c'est trop dur.
C'est trop dur.
Oui.
Allez.
J'ai un petit commentaire à faire. Moi, j'ai bien aimé le ta gueule qu'a fait Gérard Larcher dans une interview radio.
Oui.
J'ai beaucoup aimé, parce qu'au moins, c'est franc. Et effectivement, alors, je vais pas faire des amis, mais bon, voilà. Mais la personne qui était visée, effectivement, est un peu... De temps en temps, on a envie de lui dire ta gueule, effectivement. Donc,
c'est-à-dire qu'on a envie de dire ta gueule à plein de personnes en même temps.
Ah bon,
ouais. Donc, c'est comme s'il avait dit le mot d'ordre, en fait, l'archer, là.
Oui, oui, tout à fait.
C'est genre, lâchons-nous définitivement dans cette...
Oui, le lâchons-nous, ça me pose un petit problème, moi, parce que c'est le président du Sénat.
Et oui,
donc,
mais...
donc il y a un devoir d'exemplarité des gens qui travaillent au sein de l'État, et je trouve que la façon dont ils s'expriment est très importante pour le reste de la population. Si on ne veut pas que les gens s'invectivent, se traitent de tous les noms de pourris au fur et à mesure où le temps avance, disons, pour ne pas dire autre chose, il n'y a qu'à rentrer dans le genre de truc. Et ça commence par Macron qui traite, au moment du Covid, les gens un petit peu de nom d'oiseau s'ils ne veulent pas se faire vacciner. Bon, ce sont des dérapages.
Mais je pense que c'était du deuxième degré aussi, hein, ce qu'il disait. C'est du second degré, je pense.
J'ai déjà entendu... Gérard Larcher, donc, puisqu'il s'agit de lui, qui est président du Sénat, c'est quelqu'un de très rond, très fin. D'ailleurs, il est président du Sénat depuis très longtemps, ce qui nécessite... Non, mais intellectuellement. Et s'il est président du Sénat depuis une longue période, seulement par un socialiste qui n'a pas duré très longtemps à un moment, c'est qu'il a quand même des capacités au moins de séduction, peut-être de nuisance assez importantes. Par contre, je l'ai vu certaines fois, pas toujours, mais certaines fois, être extrêmement incisif, cassant, méchant de répliques face à des adversaires politiques. Il peut être extrêmement, sous ses aspects ronds, il peut être extrêmement virulent, disons. Et là, c'est le cas. Et moi, je vois pas...
Ça s'est passé en direct à la télé ou non, ou
oui, c'était une interview radio filmée.
Ah bon? Ah d'accord, oui. Donc c'est Gérard Larcher.
Larcher.
Oui, mais là...
oui, Gérard Larcher, oui. Ça. Tout à fait. Ah oui, tout à fait.
Ah bon. Et c'est contre qui on connaît l'autre
C'est contre Mélenchon.
Ah oui, d'accord.
Bah, cette conversation part d'un article du Monde du jeudi 14, signé Marion Dupont, sur l'arc républicain. Et
Ah, t'avais prévu un article alors
là-dessus? Oui, oui, en fait.
Tu le commences tout de suite ou quoi?
Donc, c'était utilisé pour disqualifier les extrêmes face au parti de gouvernement. Ce terme est substitué au fameux Front républicain qui visait le Front national. Et il symbolise actuellement la tripartition du paysage politique, écrit donc Marion Dupont dans ce Monde. Elle cite une sémiologue, Cécile Aldui, professeure à Stanford en Californie, chercheuse associée au CEVIPROF. Il s'agit d'abord, avec cette expression, de décrire la nouvelle tripartition du champ politique, elle n'est pas seule à en parler, Piketty en parle aussi, qui verrait un grand champ républicain au centre et deux extrêmes qui le borderaient de part et d'autre, à l'extrême droite avec le Rassemblement national et à l'extrême gauche avec LFI. Et donc c'est un mot arc républicain qui est employé par les membres des partis de gouvernement pour cadrer le débat. Elle leur permet de se placer dans la continuité des présidences précédentes tout en disqualifiant leurs adversaires plus contestataires. Ça n'est pas le seul avantage, estime Cécile Aldui. C'est aussi une manière de créer un nouveau clivage existentiel entre ceux qui défendraient la République et les valeurs républicaines au sens large et une menace populiste ou anti-républicaine. C'est donc un concept à usage offensif destiné, je cite, à exclure certains champs de la légitimité politique au gré des débats. Et donc, mobiliser les électeurs en appelant à défendre la République et ses valeurs, ce n'est pas une stratégie nouvelle. Sous la Troisième République, les partisans du nouveau régime prennent l'habitude au second tour des élections législatives de se désister en faveur du candidat républicain le mieux placé. Discipline républicaine qui ressurgit et qui se transforme tout au long du XXe siècle. En 1956, les mouvements poujadistes menacent de remporter des élections législatives. Jean-Jacques Servan-Schreiber donne ainsi le nom de Front républicain à la coalition de centre-gauche qui se constitue pour lui faire barrage. À partir des années 80, avec la stabilisation du vote lepéniste, la rhétorique du Front républicain va expérimenter le succès qu'on lui connaît. Dès lors, droite et gauche sont censées se désister l'une pour l'autre en cas de présence au second tour d'un candidat du Front National. Ce discours de défense de la République, dit Madame Marion Dupont, présente cependant l'inconvénient ou l'avantage de ne pas définir précisément ce qu'est ce régime qu'il s'agit de protéger, ni ce que sont ces valeurs républicaines qui réunissent ses partisans. Et résultat, la vocation de ces dernières finit au fil des années par n'être plus perçue que comme une manœuvre électoraliste. Le problème, pointe l'historien Nicolas Lebourg, je cite, « Le problème vient de l'incapacité de l'espace public à expliquer ce qu'est la République. Ce n'est pas juste un nom, mais un régime avec des normes où, par exemple, l'incitation à la discrimination n'est pas une option, mais un délit, où la scolarisation n'est pas un service consommé, mais un projet démocratique et national. » Fermez les guillemets. Est-ce pour cela que l'invocation de l'arc républicain a aujourd'hui remplacé celle du Front républicain? Aux yeux d'Emilien Ouarvial, doctorant au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, l'abandon du terme « front » par un certain nombre d'acteurs politiques était avant tout nécessaire par la recomposition du champ politique français. Le terme « front » est historiquement attaché à la gauche, avec l'idée d'un dépassement des oppositions entre organisations pour s'allier contre un ennemi commun. Il apparaît donc logique qu'une alliance excluant également la gauche radicale de LFI porte une dénomination différente. Bon, voilà. Alors que l'expression était employée à l'origine par des partis respectueux de l'état de droit, désireux de se reconnaître entre eux dans l'Italie des années de plomb, de la fin des années 60 aux années 80, quand la Première République italienne était confrontée à de puissantes vagues terroristes d'extrême droite et d'extrême gauche, sa transposition dans les systèmes partisans contemporains, révèle une incompréhension du droit et de l'histoire par les élites politiques, estime Nicolas Lebourg, historien donc. Si on veut faire une liste de 1000 km de reproches aux partis parlementaires de gauche, aucun n'évoque une atteinte au bloc de constitutionnalité, y compris LFI. Le passage du front à l'arc dans la rhétorique d'un certain nombre d'acteurs politiques signifie, en tout cas, la fin de l'unanimité sur qui sont les ennemis du système politique républicain, et parmi ceux-ci, qui en constitue l'ennemi principal, note de son côté Emilien Ouarvial. Là où le front indiquait une limite nette, les contours précis de l'arc, eux, restent à définir.
Mais j'ai un avis là-dessus. Bon, déjà, on ne sait pas. On ne sait pas définir ce que c'est que l'arc républicain par rapport au front républicain, mais je suppose que l'avantage du front républicain ou de l'arc républicain, ça peut diviser les personnes, c'est-à-dire que les extrémités sont éjectées et il reste le milieu qui est là et c'est qui est finalement
le centre.
Le centre, voilà, la majorité en fait, la majorité.
Ah non, le centre des gens qui s'entendent entre eux.
Ceux qui disent être la majorité, mais qui n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, oui. Loin s'en faut.
Mais effectivement, ça permet effectivement à un moment donné de n'avoir. Parce qu'on peut très bien avoir un front républicain, par exemple, avec l'extrême. C'est pas un parti d'extrême gauche, enfin pas vraiment. Mais par exemple, on peut avoir un front républicain avec.
Tu trouves que LFI n'est pas vraiment un parti d'extrême gauche? C'est ça que tu viens de dire.
J'ai pas l'impression.
Moi non plus. Mais ceci dit, c'est ce qu'on entend sur les ondes actuellement.
C'est sûr.
Ça a commencé par islamo-gauchiste.
Oui.
Grâce à une ministre des universités dont personne n'oubliera, ne se souvient du nom. Et
Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une tactique à faire que les extrêmes gauche, le gauche et à droite, l'extrême droite et l'extrême gauche, soient exclus du front républicain. Et ou alors, il y a une autre manière, enfin de l'arc républicain, voilà. Et par contre, pour le front républicain, là, c'est tout le monde qui se met contre un parti. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, la France insoumise avec d'autres, avec les écologistes.
C'est ce qui s'est passé pour l'élection de Macron contre Le Pen.
Exactement, c'est ça. Donc il y a deux sortes en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on appelle l'arc républicain. Parce que c'est différent du front républicain.
Oui, c'est ce qu'explique un peu cet article, je suis d'accord.
Et moi, je voudrais rajouter qu'on est, comme tu disais, comme l'article compare à l'Italie, où tout semble avoir explosé depuis déjà un moment, on est en pleine explosion. Ici, en France, on est en pleine explosion de toute... bienséance, de toute bienveillance, de tout arc ou front républicain, on est dans une explosion où on peut, où tout un chacun maintenant peut dire ta gueule à l'autre, et même dans la population où tout est, tout semble un peu implosé de partout en fait.
Moi, pour revenir à Gérard Larcher, je sais bien que le vocabulaire de Mélenchon est parfois explosif et qu'il manipule vite. Ils ont une approche un peu musclée dans les discussions. Ça n'est pas une raison pour faire pareil. Je ne suis pas d'accord. Surtout venant d'un représentant de l'État. Et surtout celui de la deuxième chambre, réputée plus conservatrice, donc plus sérieuse, plus réfléchie, avec une image de notable, etc. S'il vous plaît, quoi. Stop.
Quoi?
Enfin, sacrée discussion, quand même. Hein?
What else?
What else? Un café.
Musique?
Tu disais, t'as un souci de casque.
Non, pas du tout. C'est toi qui me faisais signe. C'est toi qui me faisais signe. Non, j'ai pas de souci de casque. Je n'ai plus de souci de casque.
Non, mais tu m'avais fait un signe.
Ah oui, t'inquiète pas.
Ah, c'est pour te dire que l'article te gonflait.
Thank you. atrodo lyg jau daugiau ar mažiau laimėta, vis dar tęsiasi. Keli paskutinių metų politiniai įvykiai vakarų pasaulyje šią ir kitas kovas dėl lygių teisų suaktyvino. Tie įvykiai ženkliai iš tikrųjų man moterimi nėra tiesiog buvimas, bet yra kasdienė agitacija. Tai yra raiška, įrodymai, bandymai saugios aplinkos aplink save kūrimas. Manau, kad ta moteris, kuri gimsta šiandien, jei viskas vystysis taip kaip dabar, taps lygia vertė, pilna vertė ir visa vertė mūsų visuomenės atstovė ir dalyvė, kuri neturi pabrėžti nei savo seksualumo ar patrauklumo, nei aplamai nieko neturi pabrėžti iš tikrųjų. To ką pati nenoriu. Manau, kad aplamai žmonės, moteris ar vyrai, kuo toliau, tuo mažiau leisis būti formuojami, fasonuojami visuomenės, nes visuomenė juk esame patys mes. Limitas, kur yra mūsų nepaliečiamas brandolinis identitetas, bus aiškesnis mums visiems. Ir tos etiketės, kurios iki šiol mums atsainiai buvo klijuojamos nuo pirmų mūsų gyvenimo dienų, tos etiketės blės. Kol galiausiai lytiškumas aplamai praras savo išorinę prasmę.
Radio Libertaire, de Postman Radio Show. Et je suis toujours avec mes amis là, au coin du feu. Et là où les poissons n'ont pas d'écailles et les oiseaux n'ont pas de plumes. Oui, c'est un truc comme ça, quoi. Donc.
Oui.
Oui.
Oui, non, moi bêtement, je discutais avec Yves et Pierre, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire l'arc républicain? Et je dis arc peut-être parce que c'est l'archer, non? Ou est-ce que ça a été pris de ça?
J'avais
ou...
pas saisi.
Bah, oui, donc.
Vraiment, j'avais pas saisi là.
Mais l'expression n'est pas de lui.
Bah oui, c'est un archer dans ce cas-là, ouais. Et quand il lâche la flèche, effectivement, il se lâche. Ouais, okay. Il se lâche. Ouais. Alors donc, moi, j'avais un article sur les morts et les mortes. Enfin, c'est redondant pour moi de dire
les morts de la rue.
Oui, les morts de la rue. Hein, voilà.
Surtout que moi, j'aurais écrit les mortes et les morts.
Bah oui.
Bon, ça se perd hein, quand même. Hein.
Bah oui. Bah, ouais.
Bon.
Alors, ils disent ici que voilà, 20 ans que le collectif Les Morts de la Rue existe. Je ne savais pas, j'avais jamais entendu parler, mais c'est intéressant de le lire là. Pour célébrer ce triste anniversaire, les grilles du parc des Buttes-Chaumont, face à la mairie du 19e, je vois bien où est-ce que c'est, Dac, là, ont servi de support pour une exposition. Ah, voilà, j'ai vu ça autour. Et comme je n'y passe, il fait très noir, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même une exposition tout autour du parc. Et une exposition du 28 octobre au 17 novembre, c'est fini. Les noms des morts et mortes de la rue connus depuis la création du collectif y ont été affichés. Mémorial pour que bah, nous, voilà, ceux qui sont vivants, le sachent. Alors ce collectif, eh bien, il développe tout au long des années hein, de nombreuses actions, comme par exemple interpeller, rendre hommage publiquement chaque année à ceux qui sont décédés mais dans la rue pour dénombrer, décrire la mortalité et le parcours de vie de ces personnes sans domicile et de faire savoir que vivre à la rue tue et oui c'est sûr et de communiquer aussi communiquer et puis accompagner ces gens, informer l'entourage, les partenaires associatifs. Accompagner chaque semaine en convention avec la ville de Paris des funérailles pour ces personnes dont les proches n'ont pas été souvent ben, retrouvés, publier des noms sur le site et puis informer ceux et celles qui les recherchent. Donc c'est tout un travail qu'il y a tout autour. Alors accompagner les vivants, les soutenir les amis, les familles aussi, les associations et les voisins en deuil, créer le lien avec tous ceux eux tous et avec toutes, elles toutes aussi pour vivre ces deuils, informer, recueillir les témoignages du voisinage de ces personnes qui vivaient à la rue dans un quartier donné, former le salarié et les bénévoles pour des structures d'accueil, faire face au décès, les soutenir dans leur démarche, animer les projets avec ceux et celles qui ont l'expérience de la vie à la rue. Il faut une expérience vraiment particulière. Je n'en doute pas. Et par exemple, eh bien, le 13 juin 2023, qui est récent, il y a 6 mois, une marche silencieuse pour 611 morts et mortes de la rue est partie de la place de la Nation pour se rendre à la porte principale du cimetière du Père Lachaise.
Alors il y en a énormément chaque année, hein, mais et en plus, ce dont les gens dont tu parles, c'est les gens dont on n'a rien à foutre. Même moi qui passe. Chaque jour dans la rue, chacun de nous.
Chacun de nous,
pour,
oui.
C'est pas pour me culpabiliser, ni nous culpabiliser. Ils font partie du pays. Enfin, je vais avoir un discours complètement horrible.
Non, mais t'as raison, malheureusement.
C'est pas rien à foutre,
c'est horrible. C'est horrible.
C'est pas rien à foutre, c'est l'indifférence. C'est aussi grave, mais c'est pas les mêmes mots.
On a pris le métro avec Yves. Tout à l'heure, il y avait un mec qui demandait une pièce. Sauf que, comme. On paye beaucoup en carte ces derniers temps et qu'on a quasiment plus de monnaie sur nous, que t'as plus de pièces à donner.
Oui, oui, oui.
Déjà. Et tu vois tous ces gens et on est dans l'indifférence totale. Moi, je le reconnais. Hein.
Oui, oui, oui.
Il y a eu plusieurs stades. Dans les années 70, lorsque j'ai vu Boulevard Saint-Michel des mendiants, j'ai été extrêmement choqué. Parce que j'en avais vu jusqu'à là que dans des pays du Sud, disons. Et maintenant, tu te balades n'importe où, finalement. Dans Paris, il y en a, quoi.
Oui, il y a beaucoup de monde.
C'est des gens qui sont à la rue, qui font la manche, qui, etc. Je ne rejette pas du tout la pierre, c'est juste une observation. Et je sais qu'au début, ça m'a révolté, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Il y avait une femme, je me rappelle, qui avait peut-être mon âge à l'époque, ou un peu plus vieille. Bon. Ensuite, il y a eu le SAMU social qui faisait des rondes avec des cars. Les choses se sont un petit peu organisées, mais elles font pas face, elles n'arrivent pas à faire face à l'afflux des gens, ça c'est certain.
Guy, les 600 morts dont...
Oui, c'est un peu... Enfin, ça pose question.
Au niveau national ou au niveau...
Je sais pas.
C'est national.
Alors,
c'est national.
Tu vas voir.
C'est pas que Paris, hein, c'est national. Hein.
Ah, d'accord. C'est national et peut-être annuel, là, il annonce. Alors, par contre, on a une petite indication là-dessus. Ils mettent donc. Par exemple, le 13 juin 2023, une marche silencieuse pour 611 morts et morts, voilà, de la rue, est partie de la place de la Nation pour se rendre à la porte principale du cimetière Père-Lachaise. D'accord. Alors, autre exemple, ils disent pour 666 morts de la rue le 6 avril 2019, donc c'est déjà annuellement. Reste à savoir après si c'est soit pour Paris simplement ou alors national, au niveau national. Je ne sais pas.
Alors, non, il n'y a pas 600 morts sur Paris en
666,
une année.
Non, hein, c'est pas un chiffre diabolique, ça. 666. C'est réel, ton chiffre?
Mon chiffre, je n'ai pas vérifié. Il faudrait que je regarde quand même de plus près. Oui. Et donc... là, c'était en 2019. Un hommage a été rendu dans le jardin Villemain à Paris, dans le 17e. Des témoignages de galère, des coups de gueule, comme celui de Sophie. Alors voilà ce que Sophie, elle dit, qui est, donc, a vécu dans la rue. Mon long voyage a duré 20 ans. Imaginez, 20 ans. Une odeur des corps à vomir sa vie. Usure des membres et de l'esprit. Les pâtes à l'eau sans saveur. Viande à moitié crue et bestialité sans partage. À la rue, la femme est une proie.
Ah, j'ai tapé mort dans la rue, leur site est actuellement en maintenance, et je suis tombé ensuite sur un site de la Croix. Et les faits, c'est que, en effet, il y a eu 611 personnes recensées mortes dans la rue en 2022, selon le chiffre du collectif Les Morts de la Rue. La Croix publie ce mardi 13 juin en exclusivité la liste de leurs noms. Cet article date de quand?
Juin, tu viens de le dire.
Non, cet article date du 6 juin, du 13 juin 2023.
Voilà.
Oui. Un an après.
D'accord.
Mais alors, je pense que ce sont vraiment des sans-abri. Hein. Certains n'ont pas de nom et il y a des tombes qui sont sans nom. Hein. Il faut le rappeler. Et ces personnes avaient 49 ans en moyenne. Elles concernent 526 hommes, 80 femmes et 5 enfants de moins de 5 ans, dont 4 sont décédés en lieu de soins, et 4 de moins de 19 ans et 2 personnes de plus de 80 ans. Voilà. Et après, tu as une immense liste sans... Tu as des prénoms, tu as des noms... Tu as par exemple l'homme au pigeon, 76 ans, le 12 janvier à Paris.
Oui, voilà, il est connu comme ça, quoi, c'est tout.
As Avram Iancu, qui devait être un Roumain, 87 ans, le 14 janvier à Paris.
Oh là.
Tu as Christian Boudot, 63 ans, le 16 janvier à Roubaix. Tu as, par exemple, Alain, 56 ans, le 18 janvier à La Rochelle.
Oui, c'est au niveau national, alors. Oui.
Tu as Luigi, dit Monsieur Merci, 68 ans, le 19 janvier à Roquebrune, Cap-Martin. Mireille, 54 ans, le 23 janvier à Toulon. Bref, des vies cassées, des vies brisées, tout ce qu'on n'espère pas pour soi. On souhaite ne pas être là-dedans. Pourquoi tu as été là-dedans? Pourquoi?
Alors,
et alors, c'est par moi, quoi.
Oui, oui.
C'est la liste et oui. Un homme inondé en mars. Un homme non identifié, 30 ans environ, le 10 mars à Marseille.
Non, oui, 30 ans. Voilà.
En avril, Olivier Pierrot, 53 ans à Paris. Enfin, la liste est très, très, très.
La moyenne, c'est 49, hein, t'as dit. Hein,
oui.
Oh là là, ouais, ouais. Alors, la femme qui témoigne, elle dit à la rue, la femme est une proie. Corps volé en échange d'un toit, la honte. À 21 ans, tendre la main et subir le regard de son prochain. Ceux qui t'ignorent comme si tu faisais partie du paysage. Ceux qui te flagellent. T'as qu'à travailler, espèce de feignante, évidemment, reçoivent toutes sortes de.
Mais on les ignore parce qu'ils font partie du paysage, mais que veux-tu qu'on fasse?
Ah oui, oui.
C'est ça le truc, c'est. Je veux bien.
Je suis pas tout à fait. Moi, c'est pas l'ignorance, je passe devant.
Moi, ça m'est pas indifférent, ça me fait mal au cœur à chaque fois, mais que veux-tu que je fasse, quoi?
Je passe régulièrement, chaque jour pratiquement, devant des gens qui sont là ou font la manche ou se contentent d'être là en attendant quelque chose, disons. Et à chaque fois, je suis un peu gêné.
Oui, puis tu es conscient que c'est pas en donnant une simple pièce que tu vas les sortir de leur misère, quoi. Oui. Trouver un.
La liste est horrible.
La nourriture.
Parce que la croix publie cette liste et je l'ai sous les yeux. Elle est juste horrible.
Je vois quelquefois des gens qui se mettent à bavarder avec eux. Bon, c'est sympa. Moi, j'ai pas le courage. Peut-être c'est sympa. Je trouve ça sympa. Je sais pas si c'est sympa. Je sais pas quelle est la relation qu'on peut avoir avec eux, vu qu'ils sont désociabilisés. Je me vois pas engager une conversation avec. Qu'est-ce que je vais être paternaliste tout de suite? Qu'est-ce que je vais raconter pour me mettre?
Voilà, surtout, tu peux pas leur offrir quelque chose
d'égal à égal.
Salvateur.
Mais je fais comment?
Oui.
Pour le mois de septembre. On a plusieurs personnes non identifiées. Un homme, le 5 septembre, à Gentilly. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait d'autopsie, on ne sait même pas qui c'est. Une personne, le 6 septembre, à Nantes. Puis, un homme, le 6 septembre, à Nice. C'est-à-dire qu'on a des rapports, les gens qui récoltent ces informations, des rapports certainement de la police ou des pompiers ou du SAMU. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a même pas de. Il y a à peine un rapport qui est fait pour dire que telle personne, on ne sait même pas qui c'est. Et quand il y a une personne le 6 septembre à Nantes, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme.
Puis il y a des gens qui tombent dans. Bon, il y a un tas de raisons pour lesquelles les gens sont à la rue.
Le corps doit déjà être abîmé au point qu'on ne sait même pas. Il n'y a aucun papier sur lui, rien qui peut l'identifier, et il n'y a pas de. C'est absolument terrifiant, quoi. Tu disais, Yves.
J'ai entamé, donc je peux en parler, mais j'hésitais un petit peu. J'ai pris un appartement un jour et j'ai su ensuite que cet appartement avait été occupé par un mec qui avait une profession tout à fait normale, et du jour au lendemain, il avait décidé de devenir clochard. C'est les mots qu'on employait, clochard, à l'époque.
Oui, exact.
Et
ça n'existe plus maintenant, ce terme.
Et ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Le mec, il avait une profession sans aucun problème. On trouve de la main-d'œuvre. Il n'y a aucun problème de chômage dans ce genre de profession qui a trait aux professions de boucherie, disons. Et je connais pas la vie. Il ne se réduit pas à son métier. Mais le mec a quitté son appartement et est devenu clochard. Donc je me dis depuis, c'était il y a assez longtemps, ça fait une quarantaine d'années, je me dis depuis, si ça peut arriver à quelqu'un, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Il peut y avoir un choc, quelque chose qui, qui fait que brusquement on n'a plus envie, on se retrouve clochard.
Il y a un
mais c'est pas le cas, je crois, des nombreux clochards qui sont actuellement dans Paris.
Non.
C'est un... Et peut-être le mot clochard était adapté à une époque et peut-être plus adapté à ce qui se passe là.
Il y a un Henrik, 54 ans, décédé le 15 septembre à Melun, 2022.
Oui, oui.
C'est pas moi.
Ben oui, 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 oui.
Enfin bref, voilà, la liste est extrêmement longue. Elle est, elle essaye d'être détaillée. Il y a des gens de toute provenance. Il y a un Kirill. Kirill, c'est un prénom russe. Il y a Panzou. Il y a des gens sans nom.
Cyril, c'est le nom d'un...
Kirill.
Ah, Kirill.
Alors, celle qui témoigne, elle fait mention que ces gens, souvent, sont étiquetés quand même. Étiquetés bureau d'aide sociale. Voilà, virgule, marginal.
Marginaux.
Ils sont classés comme des marginaux, voilà, oui.
Il y a des gens très jeunes, hein.
Oui.
En dehors de l'arc social.
Alors, elle dit, chaque année, le collectif, celle qui écrit l'article, Hélène Hernandez, écrit chaque année, le collectif publie un rapport. Ainsi, le 27 octobre 23, hein, c'est récent aussi, le 11e rapport sur la mortalité des personnes sans chez soi en France pour l'année 2022 est paru. C'est ce que tu viens de nous lire en grande partie, sans doute, Henrik. Hein. Voilà, en lien avec l'Observatoire national des pauvretés et de l'exclusion sociale. Ça s'appelle l'ONPES. Avec la Fondation de France, ces rapports visent à mieux témoigner et mieux dénombrer les décès de personnes de la rue.
Mmh.
SDF. Mieux connaître cette réalité peut permettre de tenter de la prévenir. Mieux comprendre pour mieux agir. Donner des préconisations. Un accord avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DGCS, donne des moyens de travailler avec... Avec une épidémiologiste, afin d'améliorer le travail de recueil, d'améliorer aussi l'aspect quantitatif en élargissant le réseau des associations, des institutions concernées, afin qu'elles transmettent des informations et améliorer l'aspect qualitatif en recherchant les données concernant le parcours de la personne au niveau social, au niveau professionnel, santé, etc.
Et je pense que les moyens ne sont pas suffisants.
Parce que... Ben oui, parce que les rapports dont tu as parlé...
S'il y a autant de morts, c'est que
n'y
a pas suffisamment de surveillance et qu'il n'y a pas suffisamment, la société dans l'incapacité...
De surveillance ou d'accueil.
De surveillance, d'accueil, de récupération de ces gens. Là, je vois... Il y a une certaine Yuma, 29 ans, en novembre à Paris. Fatima, 59 ans, le 1er novembre à Noyon. Malika, 54 ans, le 5 novembre à Puteaux. Wojciech, 57 ans, toujours à Paris le 7 en novembre.
T'imagines, oui, tout ce que tu annonces là. Ils disent, malgré les nombreuses actions bénévoles pour sortir de l'anonymat toutes les personnes mortes, hein, c'est fini pour elles, donc de la rue, il n'en demeure pas moins que les centaines de morts par an, silenciers, ils les appellent. Hein, bah oui. C'est un nouveau mot. Mais,
qui silencier, c'est entre silencieux et ferme ta gueule. Quoi.
Oui, oui.
Enfin,
sont un vrai scandale.
Je ne parle plus.
Oui. Donc c'est un vrai scandale de plus dans un pays qui s'affirme pays des droits de l'homme et qui affiche de larges richesses non pas partagées entre tous et toutes. La conquête du pain revendiquée par Kropotkine, Pierre Kropotkine, reste toujours d'actualité et celle de la réquisition des logements vides aussi. Qui peut encore rêver à Noël ? Et puis là, effectivement, Fabien. Hélène, elle aurait pu mettre, en plus, dans un pays qui est en train, dans peu de temps, il vient de s'ouvrir pour organiser des jeux mondiaux, quoi. Des jeux...
Ouais, enfin, Lupin, les CRS, ils en donnent, quand même, à certains moments, quoi.
Voilà, oui, oui.
Je fais un peu de mauvais humour, hein. Bon.
Voilà. Cet extrait du Monde Libertaire
Oui, mais sur la base de...
des articles que vient de nous lire aussi Henrik dans le...
Ah,